autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour nous interroger autour des plus récentes découvertes en neurosciences sur le cerveau et sur les liens entre le corps et l'esprit. Par la simple force de la pensée, il est en effet possible de transformer son cerveau dans sa structure comme dans son fonctionnement le plus intime. Prévenir une crise d'épilepsie par la technique du neurofeedback, réduire la perception de la douleur par l'hypnose, accroître son attention ou son empathie par la méditation. Pourquoi et comment les chercheurs en neurosciences s'intéressent-ils aujourd'hui aux approche traditionnelle entre corps et esprit développée depuis des millénaires par les méditants bouddhistes ou par des méthodes d'autosuggestion à l'œuvre dans l'effet placebo. C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité, le chercheur en neurosciences spécialiste de l'épilepsie Michel Levent-Kuhn, autour de la question « Comment transformer son cerveau, c'est possible ?» Ici et maintenant, bienvenue. Bonjour Michel Levent-Kuhn.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes docteur en neurosciences, chercheur à l'INSERM, spécialiste de l'épilepsie. Vous dirigez un groupe de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où vous étudiez avec des médecins, des psychologues, des physiciens, la possibilité de modéliser et de prédire l'activité cérébrale, en particulier dans les cas d'épilepsie. Les pouvoirs de l'esprit, c'est le titre de l'ouvrage que vous venez de publier aux éditions Flammarion, un ouvrage dans lequel vous faites la synthèse des découvertes assez stupéfiantes sur notre cerveau humain, sa capacité à s'auto-transformer, sur ce lien entre corps et esprit interrogé, étudié par des chercheurs en neurosciences à l'esprit particulièrement ouvert, à commencer par le regretté Francisco Varela, qui a été, Michel Levent-Kuhn, votre directeur de thèse. Ce neurobiologiste visionnaire n'a pas hésité à convoquer, c'était au laboratoire de la Salpêtrière, un moine bouddhiste, Mathieu Ricard, pour lui mettre des électrodes sur la tête et mesurer son activité cérébrale pendant une méditation étrange pour un chercheur en neurosciences.
Oui, alors Francisco Varela a dirigé ma thèse à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc Francisco Varela est décédé en 2001, mais c'était pendant sa carrière en France, en tout cas, quelqu'un d'extraordinaire, en fait, une sorte de surdoué de la science. Et donc il était diplômé de Harvard et en fait il était directeur de recherche en CNRS. Et en fait il était d'origine chilienne. Et il a dû en fait quitter son pays après le putsch de Pinochet. Et en fait ça l'a amené en fait à travailler dans les quatre coins du monde. Et en particulier dans les années 70, il a travaillé à Boulder, dans le Colorado, où il a rencontré en fait le bouddhisme dans la personne de Shwegam Trungpa, qui est un des grands maîtres bouddhistes. D'après Fabrice Midal, en fait, c'est même l'homme qui a importé le bouddhisme en Occident. Et donc Francisco Varela a rencontré en fait Shwegam Trungpa et le bouddhisme en général, et il est devenu convaincu en fait qu'on pouvait décrire l'esprit, étudier l'esprit de manière intérieure en fait, avec la même précision en fait que en fait la science étudie le monde physique. Donc en fait, cette persuasion a fait qu'il a initié un dialogue entre le bouddhisme, en particulier les tibétains, et puis les scientifiques occidentaux. Et il a mis en place dans les années 80, donc en particulier en 87, la première rencontre Mind and Life. Donc c'était cette rencontre extraordinaire où il y a d'un côté le bouddhisme tibétain, donc en particulier le Dalai Lama, et puis de l'autre côté, vous avez les scientifiques occidentaux qui dialoguent. Et donc la première rencontre a eu lieu en 87, donc à Dharamsala, dans le quartier privé du Dalai Lama, dans le nord-est de l'Inde, la ville refuge des Tibétains. Et en fait, donc ce dialogue s'est poursuivi en fait chaque année jusqu'à maintenant. En fait, il y a Dharamsala aux États-Unis, ces rencontres entre ces deux traditions d'une certaine manière, et des dialogues stupéfiants.
Et qui ont fait avancer aussi les neurosciences.
Donc ils ont fait avancer les neurosciences parce qu'en fait ce genre de dialogue en fait pousse la science un peu à ses limites. Ici on est vraiment à la limite entre la sagesse et en fait le savoir scientifique. On est à la limite entre d'une certaine manière le cerveau et tout ce qu'on connaît du cerveau par la science, mais également l'expérience intérieure de l'autre côté. Donc c'est un dialogue qui est extrêmement créatif.
Et en fait, entre le fait qu'aujourd'hui on peut presque voir le cerveau penser, et on peut demander à ceux qui le travaillent depuis des millénaires comment eux
Exactement.
Ils le ressentent à l'intérieur.
Exactement, en fait il y a deux en fait mondes qui sont aussi réels, aussi passionnants l'un que l'autre, qui se mettent en dialogue.
Autour de la question comment transformer notre cerveau, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Oui. On va comprendre pourquoi c'est possible et quels sont ces multiples pouvoirs de l'esprit. Première piste de réflexion sonore tout de suite, avec le mix forcément cérébral et particulièrement bien incarné par Charles Pélabon.
C'est l'organe le plus complexe de l'univers et le plus mystérieux du corps humain, notre cerveau. L'être humain, son centre de conscience, son centre de volonté, le siège de son libre arbitre, se trouve pas dans le cerveau, mais dans l'esprit.
Notre capacité à réguler les émotions peut transformer notre tempérament et par là même améliorer notre aptitude au bonheur.
À méditer là-dessus, je vais m'employer.
En Occident, on a ces clichés sur la méditation, faut faire le vide, se relaxer sous un manguier, c'est pas du tout ça. La méditation, c'est l'entraînement de l'esprit.
C'est pourquoi vous allez suivre, sous ma direction, un entraînement choc.
Avec les techniques de neuroimagerie, les scientifiques ont ouvert une fenêtre sur notre boîte crânienne.
Si le cerveau nous manipule, nous pouvons aussi l'induire en erreur.
Quelquefois, quand on est au bord de la mer, on écoute quelque chose.
L'hypnose commence dès l'entrée au bloc.
Il est déconnecté, entre guillemets, il est en état de conscience modifiée. Évidemment, là, pas de douleur, pas de sensation.
C'est absolument pas de la magie, tout vient du patient lui-même.
La méthode Coué ou méthode d'autosuggestion part du principe que se prévaloir d'aller bien permettrait effectivement d'aller mieux.
Comment, au lieu d'injecter des médicaments, on injecte des mots? Et comment les mots changent notre cerveau et nos circuits nerveux?
Ce que l'effet placebo continue et continuera de questionner, c'est notre conception de la relation du corps et de l'esprit.
J'ai entendu parler des expériences de Sachs, qui a découvert que les épileptiques, justement, entendaient une certaine musique dans leur tête avant que la crise ne se produise, et aussi les traitements par le dessin et par l'art. Est-ce que c'est l'esprit, est-ce que c'est le corps? J'ai du mal à distinguer les deux.
Je trouve que ce que nous apprennent toutes ces sciences, c'est qu'il y a une capacité à...
Une capacité à, dans notre cerveau, entre l'esprit et le corps. Michel Van Kuen, qu'est-ce que c'est que l'esprit? C'est une question que nous posent nos auditeurs malgaches sur les réseaux sociaux.
Donc c'est vrai qu'il faut préciser la chose, en fait, la notion d'esprit, en fait... porte souvent à confusion dans la langue française, en fait. Il y a, en fait, ça recouvre plusieurs sens. Et d'un côté, vous avez, en fait, l'esprit qui est synonyme d'âme, une certaine manière de souffle vital. Donc, ça ramène, en fait, au spirit latin. Donc, ça oriente immédiatement vers des conceptions plutôt religieuses et ou mystiques. Et ce qui est très difficile aussi pour nous, scientifiques, d'aborder. Mais par contre, la notion d'esprit est peut-être plus proche de la science. En fait, c'est proche de la notion de, qu'on appelle le mind, le mot mind en anglais.
Le mental,
en fait, exactement. C'est tout ce qui passe dans nos têtes, nos émotions, toutes les pensées, tout le monde mental et psychique en général. Par exemple, dans l'expression « être dans tel état d'esprit », on a cette définition. Donc c'est celle qui est le plus proche, en fait, de celle qu'on utilise, en fait, dans la recherche.
Et donc c'est ce cerveau-là que vous étudiez, cet esprit-là qui est éminemment modulable et plastique. Première réalité.
Exactement. Donc déjà, il faut, pour moi, d'après moi, en fait, un peu distinguer, en fait, l'esprit du cerveau. Et en particulier, donc, à la fois, il faut montrer, il faut une certaine manière penser que l'esprit et le cerveau sont deux choses différentes, mais à la fois, ils sont extrêmement liés l'un à l'autre. Mais de distinguer les deux est quelque chose d'important pour moi. Donc déjà, il faut voir au niveau de la tradition, c'est-à-dire que depuis Descartes, en fait, il est convenu de penser que l'esprit et le corps, et le cerveau en particulier, en fait, sont deux domaines totalement séparés. Et donc, presque étrangers l'un à l'autre. Et dans sa position la plus radicale, en fait, la pensée, donc la subjectivité, en fait, est quelque chose de totalement indépendant de son substrat biologique. Et donc, c'est la position cartésienne.
Mais c'est pas ce que montrent les neurosciences aujourd'hui. Enfin, même quand on voit fonctionner le cerveau, c'est pas ce que ça montre.
Ça montre un reflet bien sûr de cette activité. Mais l'esprit est quelque chose qui est lié à sa propre subjectivité. D'après moi, en fait, une question de point de vue. Vous avez deux types de connaissances. Vous avez une certaine manière, la connaissance scientifique, qui est la troisième personne. Donc celle qui est donnée par les instruments de la science, donc l'imagerie cérébrale ou l'EEG. Donc vous avez cette connaissance de la science, mais donc on pourrait dire une connaissance à la troisième personne. Mais à la fois aussi, vous avez une connaissance à la première personne, qui est définie par la personne qui fait l'expérience. Ça a été thématisé, en fait, par un philosophe qui s'appelle Thomas Nagel, qui a écrit un très bel article qui s'appelle « Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris ?» Et il a montré, en fait, que c'est pour nous impossible de l'extérieur, en fait, de savoir, en fait, comment voient les chauves-souris par leurs oreilles. Donc, en fait, il y a quelque chose qui échappe, d'une certaine manière, à la science au niveau de l'esprit, c'est l'effet que ça fait, c'est-à-dire la première personne.
Donc, pour un scientifique qui l'étudie, il faut à la fois l'étudier de l'extérieur comme un scientifique à la troisième personne, mais aussi recueillir le point de vue de ceux qui le vivent, enfin de nous, quoi, de ce qui se passe à l'intérieur. C'est
exactement.
Ça
il faut en tout cas rapprocher ces deux perspectives qui sont, d'après moi, en tout cas deux aspects de notre humanité. Vous avez d'un côté la complexité de notre cerveau qui est révélée tous les jours de mieux en mieux par les neurosciences, et aussi finalement la richesse de notre esprit. Et donc en particulier, donc l'esprit n'est pas une sorte de fumée qui est issue du cerveau, mais cet esprit, en fait, peut avoir une capacité causale sur le cerveau lui-même qui le génère. Donc c'est ça que j'exprime dans mon livre. c'est que l'esprit n'est pas uniquement quelque chose d'éphémère, transitoire, mais en fait a un effet également en retour sur le cerveau qui lui donne naissance.
Et on va y revenir, hein, vous le démontrez, notamment pour des patients qui font des crises épileptiques, qui peuvent, oui, au fond, sentir venir leur crise et même avoir un effet de les anticiper et peut-être même les contrôler.
Oui, exactement. Donc dans le cadre de l'épilepsie, en fait, certains patients expérimentent un phénomène de manière intérieure qui s'appelle l'aura. Donc c'est une perception très forte, juste quelques secondes avant la crise, qui leur indique qu'ils vont faire une crise d'épilepsie. Et certains patients, à partir de ce symptôme de l'aura, en fait, ont la capacité en fait, de développer en fait, ce qu'on appelle des contre-mesures cognitives. Donc des mesures qui permettent d'arrêter une crise qui se prépare. Et donc il y a des exemples. Il y a un exemple, par exemple, qui a été rapporté par Robert Effron, donc un médecin, qui a montré qu'une patiente qui avait une forte aura olfactive, en fait, arrivait en fait à interrompre sa crise d'épilepsie par l'odeur du jasmin. Et à un moment donné, en fait, il a entraîné cette patiente à associer l'odeur du jasmin avec un bracelet qu'elle portait en permanence. Et donc, seulement en regardant le bracelet, elle pouvait en fait interrompre sa crise d'épilepsie. Et donc, c'est un exemple de la force de l'esprit dans le cadre de l'épilepsie.
Autour de la question, comment transformer son cerveau et pourquoi c'est possible, hein, grâce aux multiples pouvoirs de l'esprit, on écoute Liquid Spirit, Grégory Porter, sur RFI. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Head, clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. Some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hitting banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Liquid Spirit sur RFI, Grégory Porter autour de la question comment transformer son cerveau. Nous découvrons les multiples pouvoirs de l'esprit, du mental sur le corps avec notre invité, le chercheur en neurosciences Michel Levent-Cuyenne. Tout de suite, une nouvelle question pour vous, celle de François Lassagne, rédacteur en chef du mensuel Science et Vie.
Comment faire quand on fait une étude sur le pouvoir de l'esprit sur le corps pour être sûr de comparer les résultats de son étude à la même étude contre placebo? C'est-à-dire, si je demande à quelqu'un de faire un effort mental dont je suppose qu'il va l'aider à aller mieux, comment je fais pour savoir qu'il a bien fait cet effort mental et que c'est bien cet effort mental qu'il a fait aller mieux, ou bien si c'est l'effet placebo, qui d'une certaine manière est aussi un effort mental, qui l'a aidé à aller mieux. Donc comment j'apporte la preuve que j'ai fait mieux que l'effet placebo quand je dis que l'esprit a le pouvoir de soigner le corps ?
pouvez-vous répondre à François Lassalle, Michel Le Vanquen, parce que l'effet placebo, ça vous intéresse?
Oui, moi je pense que l'effet placebo, c'est une manifestation des pouvoirs de l'esprit, donc ça fait partie d'une certaine manière de cette manifestation fondamentale, à mon avis, de cet effet. Donc l'effet placebo, c'est quoi en fait? C'est cet étrange phénomène en fait que ça marche parce que j'y crois. C'est un phénomène extrêmement étonnant en fait. Il suffit qu'un patient croit qu'il a un remède efficace, même si par exemple c'est que de quelques gélules de sucre, pour qu'il guérisse effectivement. Donc
ça marche. Un de vos chapitres s'intitule « Guérir grâce à l'imagination ».
Exactement. Donc c'est un pouvoir formidable de l'imagination et c'est donc l'espoir de guérison, c'est-à-dire un phénomène qui est purement psychologique, qui se transforme en une réalité qui est physiologique, qui est la guérison, le fait d'aller mieux en fait. Hein.
Donc et ça illustre quoi? Oui,
les neurosciences montrent en fait que c'est pas un phénomène qui est uniquement dans l'éther d'une certaine manière, mais c'est un phénomène qui a une trace biologique. Et justement, les neurosciences montrent en fait que une attitude positive du patient par rapport à l'amélioration de son traitement fait que le cerveau en fait de ce patient en fait génère déjà des molécules, c'est-à-dire de manière endogène, des molécules qui sont guérisseuses.
Donc ça a un effet véritable sur le corps.
Un effet physiologique,
palpable, mesurable
sur le corps. Il y a une des premières personnes qui a montré cet effet biologique, c'est John Levin, qui est un professeur en Californie, à San Francisco, qui a montré dans le cadre des douleurs dentaires, après l'extraction des dents de sagesse, en fait, que cet effet placebo était lié, donc l'effet placebo antidouleur était lié en fait à la sécrétion d'endorphines. Donc c'est des morphines naturelles qui sont générées par le cerveau, par une petite structure qui s'appelle l'hypophyse et l'hypothalamus, et qui en fait se fixe à des récepteurs particuliers qui s'appellent les récepteurs opioïdes et qui arrêtent la douleur. Donc c'est-à-dire que cet effet placebo de croire en fait qu'on va aller mieux en fait a une trace d'une certaine manière biologique, et c'est la sécrétion par le cerveau donc de certains types de molécules qui font aller mieux.
Mais comment faire alors justement? Est-ce que pour aller mieux, parce que vous dites absolument pas qu'il faut supprimer les autres médicaments, ça ne pourrait être que complémentaire. Oui. Vous parlez aussi de la fameuse populaire méthode Coué, qui est un peu regardée de haut souvent par les scientifiques. Comment faire pour soi-même arriver, je sais pas, à y croire ou à sécréter ce qu'il faut? Ou est-ce que notre esprit justement est un tel pouvoir et un bon pouvoir sur notre corps?
Donc bon, c'est parfois une question d'entraînement, c'est-à-dire que c'est l'effet placebo est un effet qui est très très variable et difficile parfois véritablement à contrôler, mais néanmoins un entraînement est quelque chose qui peut être utilisé en fait pour donc je parle plusieurs fois de cette idée en fait que un entraînement de l'esprit, c'est la même manière en fait qu'un sportif ou un effort physique peut façonner d'une certaine manière la musculature, en fait un effort mental, un entraînement mental peut d'une certaine manière consolider, créer même de nouvelles connexions neuronales. Donc cet effort mental, donc cet entraînement mental, peut être une manière aussi de renforcer, de générer ce type d'effet comme placebo. Il faut rendre aussi hommage un peu à Coué, on se moque régulièrement
la méthode Coué, de lui. Émile Coué, pharmacien en fait, de son état.
C'est un Français qui est précurseur, finalement, qui a fait une des premières observations de l'effet placebo en France. Il était dans son officine à Troyes, au début du siècle, il s'est aperçu en fait que les médicaments qu'il prescrivait, les potions qu'il prescrivait, étaient plus efficaces lorsqu'il les accueillait et les accompagnait de paroles encourageantes. Donc il a vu cet effet et donc il a développé toute une méthode autour de ça, d'encouragement et aussi donc de d'auto-suggestion des patients. Donc c'est relativement un précurseur, mais il n'a pas vu en fait la trace biologique.
Oui, c'est parce qu'aujourd'hui ce que montrent les neurosciences, qui est quand même assez étonnant, c'est la trace biologique.
Exactement,
et donc faut vraiment se méfier des charlatans. C'est pas que ça marche tout seul et que ça marche toujours, mais c'est que ça a un effet. C'est ça que vous dites.
Exactement.
C'est ça que vous voyez.
C'est un effet qui est mesurable. En tout cas, la manière dont on peut créer cet effet, quelque chose, je pense, qui est ouvert, mais c'est un effet qui est mesurable, qu'on peut voir en imagerie cérébrale. Donc il y a une trace physique, biologique, en fait, de cet effet, et à mon avis, ça ouvre des portes extraordinaires à la recherche et à la science. Et en particulier, c'est particulièrement intéressant pour tout ce qui est, en fait, médecine complémentaire. Donc ça, c'est une chose importante à dire, c'est-à-dire que la médecine conventionnelle, en fait, a souvent, en fait, une... Oui, je vais en revenir un peu plus tard, si vous voulez, sur cette...
Non, mais c'est important qu'en médecine complémentaire, hein, je tiens à le rappeler, si nos auditeurs ne l'ont pas entendu, mais autour de la question, comment transformer son cerveau. Nous allons continuer à découvrir les multiples et fantastiques pouvoirs de l'esprit dans 3 minutes avec vous, Michel Le Vanquen, juste après le flash d'info. On se retrouve pour continuer d'essayer de comprendre et d'en prendre un peu plus conscience. À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question comment transformer notre cerveau. Nous découvrons les pouvoirs de l'esprit, du mental sur le corps, les pouvoirs de l'esprit. C'est le titre de l'ouvrage de notre invité, le chercheur en neurosciences, spécialiste de l'épilepsie, Michel Van Kuyen, qui nous fait partager les travaux et les découvertes assez stupéfiantes de neurobiologistes à l'esprit particulièrement ouvert.
Depuis plusieurs années, des expériences se déroulent en laboratoire avec des méditants bouddhistes. C'est le projet Esprit et Vie. Les neuroscientifiques et les bouddhistes ont un point en commun. Ils veulent chacun comprendre la nature de l'esprit. Mais leurs approches divergent. Pour les scientifiques, l'observation. Pour les bouddhistes, la méditation. Ces chercheurs qui étudient les états méditatifs sont des pionniers. Mieux connaître les relations que l'esprit entretient avec le corps, étudier l'extraordinaire propriété de plasticité du cerveau, voici leurs intentions.
Extrait du documentaire des moines en laboratoire diffusé sur Arte. Qu'est-ce que cherchent ces chercheurs comme vous qui travaillent donc avec des méditants bouddhistes ?
Donc, ce qui est très intéressant dans ce domaine, c'est en fait de comprendre comment, d'une certaine manière, un entraînement très intensif du cerveau permet d'avoir des bénéfices pour le bien-être et la santé. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc, mieux comprendre en fait ces phénomènes de neuroplasticité qui sont
neuroplasticité. C'est-à-dire qu'au fond, le cerveau, il peut être transformé, pas à volonté, mais suite à un entraînement.
Exactement. Donc, il y a quelques dizaines d'années, en fait, on pensait que le cerveau adulte était en fait une sorte de système qui était pré-câblé, qui était sans capacité de renouvellement, de modification, donc une sorte de hardware d'un ordinateur. En fait, c'est pas du tout le cas. En fait, à chaque apprentissage, à chaque action, mais même à chaque pensée, donc à chaque action imaginaire, en fait, le cerveau se transforme.
À chaque action imaginaire, vous avez dit. C'est-à-dire qu'il suffit de penser qu'on fait quelque chose régulièrement pour que ça transforme le cerveau.
Exactement. Ça a été par exemple montré par Pasquale Leone, un professeur à Harvard, qui a montré en fait que il suffit de s'imaginer faire ces gammes sur un piano pour que les zones cérébrales correspondant aux doigts en fait se modifient. C'est-à-dire, il a montré donc que l'imagination d'un effort, même sans mouvement, en fait, entraîne des modifications au niveau du cerveau, mais même au niveau des muscles.
C'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'un musicien modifie certaines régions de son cerveau, comme un chauffeur de taxi en modifie aussi certaines. Mais ce qui est démontré aujourd'hui, c'est que rien qu'en imaginant faire ces gammes ou travailler, ça modifie aussi le cerveau.
Exactement, ça a été vraiment montré. Donc on voit, on peut mesurer à partir de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, en fait, le volume qui est impliqué, par exemple, qui correspond aux doigts. Et lorsque vous faites l'imagination des gammes sur votre piano, en fait, ce volume se modifie. Donc imaginer, c'est faire, d'une certaine manière.
Imaginer, c'est faire pour notre cerveau, pour notre esprit.
Imaginer, c'est faire. Donc un acte imaginaire a une trace dans le cerveau. Donc la méditation, c'est une des formes d'entraînement particulier qui permet, en fait, au cerveau de se modifier.
Et donc, ça laisse des traces dans le cerveau.
Ça laisse des traces, des modifications, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des modifications au niveau de la fonction, c'est-à-dire le cerveau fonctionne de manière différente, mais il y a aussi des modifications au niveau de la structure, c'est-à-dire l'autonomie même du cerveau. L'anatomie, en particulier des grands pâtiquants, est légèrement différente de l'anatomie d'une autre personne, de personne normale.
On est décidément extrêmement fort. Enfin, les pouvoirs de l'esprit sont insensés et fonctionnent par l'imagination. Voilà pourquoi vous vous intéressez dans votre livre à les pouvoirs de l'esprit, aussi à l'hypnose, Michel Van Kuyen.
Oui, l'hypnose, donc c'est un état qui se rapproche, qui est assez proche de la méditation, quelque chose de très très intéressant, et surtout ensuite pour la recherche et surtout dans le domaine de la médecine. Donc l'hypnose, c'est quoi en fait? C'est un état qui est totalement naturel de notre esprit, qui a une tendance à être une sorte de rêve éveillé. Donc tout le monde connaît en fait cet état. Lorsque vous conduisez votre voiture pendant plusieurs heures et vous arrivez à destination, en fait, vous vous rendez compte que vous avez tout oublié, que vous étiez d'une certaine manière dans vos pensées, vous étiez dans la lune,
état second,
vous êtes dans la lune, vous êtes très focalisé sur vos pensées, vous étiez donc dans un état d'hypnose. Et en fait, avec l'aide d'un thérapeute, donc un professionnel de l'hypnose, en fait, vous pouvez approfondir cet état de rêve éveillé. Et cet état est particulièrement intéressant en fait pour la recherche, parce qu'il a des propriétés qui sont remarquables. Vous avez cette propriété d'absorption, c'est que vous êtes absorbé à 100% dans une expérience imaginaire, mais vous avez surtout aussi une propriété qui est la dissociation. C'est que dans ces états, en fait, vous êtes à la fois parfois acteur et spectateur, et vous pouvez par exemple vous déconnecter de votre propre corps. Et ainsi, vous pouvez en fait réduire en fait la douleur.
Réduire la douleur grâce à l'hypnose.
Oui.
Vous l'utilisez. Vous êtes spécialiste de l'épilepsie.
Je suis pas un spécialiste.
Vous travaillez sur le cerveau dans des opérations notamment sur le cerveau. cerveau, l'hypnose est utilisée aujourd'hui.
Exactement. Donc, je travaille avec une anesthésiste qui s'appelle Catherine Bernard, qui travaille à l'hôpital de Kremlin-Bicêtre à Paris dans le service de neurochirurgie et qui utilise donc l'hypnose ou ce qu'elle appelle la transe hypnotique en fait pour les chirurgies éveillées du cerveau.
Donc, chirurgie éveillée du cerveau.
Ce sont des chirurgies particulières qui nécessitent en fait l'ouverture du crâne, donc qui est très douloureuse, mais les patients doivent rester éveillés en fait parce qu'on pendant l'opération, en fait, il doit faire des tests cognitifs pour savoir exactement la région qui est opérée. Donc, il est très important de garder les patients éveillés, mais toutefois, il faut diminuer un maximum la douleur. Et l'hypnose est particulièrement, disons, bien adaptée pour cela. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ce phénomène de dissociation. Et donc, Catherine Bernard a développé donc toute une procédure. Et en particulier, donc, je raconte l'histoire de Madame L, qui est une patiente qui est venue donc dans son service et qui a en fait plusieurs fois rencontré Catherine Bernard, cette anesthésiste, pour développer une sorte de film mental qu'elle va appliquer ensuite à la salle d'opération.
Une sorte de voyage mental.
Voyage imaginaire qui était en fait dans son cas une promenade en Lozère. Donc pendant les 9 heures de son opération du cerveau, en fait, elle s'est visualisée d'une certaine manière cette promenade en Lozère et donc et pendant 9 heures, je dois le rappeler, et donc sans pratiquement aucun anesthésique, aucun médicament antidouleur. Et elle était extrêmement fière d'avoir participé elle-même à sa propre opération en tout cas. Et donc l'hypnose en tout cas est particulièrement bien adaptée pour ce genre de situation.
Elle a réussi à s'échapper finalement. Les pouvoirs de l'esprit, c'est permettre de s'échapper, d'être là sans être là. C'est un des pouvoirs de notre mental.
C'est un des pouvoirs. Il y a des multiples, bien sûr, dimensions un peu de ces pouvoirs. L'esprit est d'une richesse infinie. Mais en tout cas, ça, c'est un des pouvoirs qui est particulièrement intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui est intégré finalement dans la médecine maintenant moderne. Et donc, c'est en fait aussi des vieilles connaissances. Par exemple, au niveau de l'hypnose, ça a été déjà utilisé en fait avant l'invention des anesthésiques chimiques comme l'éther, par exemple, un médecin anglais l'utilisait déjà couramment. Mais la grande spécialiste du domaine, c'est Marie-Elisabeth Fémonville, qui est une chirurgienne à Liège, qui a fait en fait plus de 10 000 ce qu'elle appelle hypnosédation, c'est-à-dire un mélange d'hypnose et en fait de très faibles doses d'anesthésiques chimiques.
On revient à ce que vous disiez sur la médecine complémentaire. Enfin, les deux peuvent aller ensemble.
Exactement. Donc les deux de plus en plus vont ensemble parce que la médecine conventionnelle en fait a parfois un grand nombre de difficultés. La médecine conventionnelle, en fait, à cause de sa connaissance très précise des mécanismes biologiques, propose surtout en fait des sortes de technologies, c'est-à-dire une molécule ou alors une intervention chirurgicale pour résoudre d'une certaine manière une douleur ou réparer un organe. C'est en fait ce que Claude Bernard appelle une médecine des organes d'une certaine manière. Et donc c'est une stratégie qui a une efficacité formidable, mais néanmoins dans certains cas ça ne marche pas très bien. Et donc on se rappelle l'histoire du Mediator, on se rappelle qu'il y a 150 000 hospitalisations en fait dans les hôpitaux en France en raison d'accidents pharmacologiques, donc des gens prennent trop de médicaments, des mauvais médicaments. En France aussi, on a une situation dans laquelle on prend 3 fois plus de tranquillisants et d'antidépresseurs que nos pays voisins européens, donc il y a quand même un problème. Et les médecines complémentaires, donc c'est une nouvelle forme de médecine qui ne dit pas aux patients d'arrêter les médicaments, surtout pas, mais d'en prendre un peu moins et d'être une certaine manière accompagné d'une manière un peu différente. Et ces médecines, donc comme l'hypnose, mais aussi comme la méditation, en fait, permet en fait de prendre le patient dans sa globalité, dans sa subjectivité aussi, et permet une certaine manière de trouver en lui-même des propres ressources pour une guérison, pour une amélioration de son état, en fait.
Nous continuons de découvrir les multiples pouvoirs de l'esprit, du mental sur le corps. Les pouvoirs de l'esprit, c'est le titre de votre ouvrage. Michel Levenquen, autour de la question comment transformer notre cerveau, je vous propose l'éclairage d'un spécialiste de la question, spécialiste de la musculation du cerveau, si j'ose dire, le moine bouddhiste Mathieu Ricard, qui a lui aussi, au cours de ses méditations, servi, on pourrait dire, de cobaye à d'éminents neurobiologistes.
La personne qui dirige le service de psychologie à Harvard, Stephen Koslin, une fois dans un de nos dialogues, a dit qu'il faudrait commencer par une déclaration d'humilité devant la masse de données expérimentales que les contemplatifs apportent au domaine de la psychologie contemporaine. Donc, qu'est-ce qui s'est fait il y a 10-12 ans? C'était de se dire, voilà, prenons d'abord des méditants très expérimentés qui ont fait entre 10 000 et 50 000 heures de méditation. S'il y a des changements, on devrait les voir chez eux, dans la fonctionnalité et la structure du cerveau. Si on trouve rien, c'est pas la peine de se fatiguer à étudier des gens qu'on en fait 15 jours. Par contre, si c'est comme ça a été le cas, on trouve des changements considérables, chez ces militants, alors on peut voir comment sont-ils arrivés là. Qu'est-ce qui se passe si on en fait une semaine, deux semaines, trois semaines? On a étudié principalement la compassion. C'est en gros, c'est l'amour altruiste appliqué à la souffrance de l'autre. C'est-à-dire souhaiter que les autres cessent de souffrir, que les causes des souffrances soient dissipées. Parmi tous les états méditatifs, c'est un de ceux qui active le plus fortement certaines zones du cerveau. Et à un tel point que dans les premières expériences, notamment dans la bande gamma et notamment dans les zones du cerveau liées aux affects positifs, c'est-à-dire l'insula, le cortex préfrontal gauche, etc., des augmentations jusqu'à 800%, à tel point qu'au début, ils pensaient que c'était un artefact, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui marchait pas dans l'expérience, d'une amplitude qui n'avait jamais été décrite en neurosciences. Et donc, ça a été bien maintenant vérifié avec une vingtaine de méditants dans plusieurs labos. Effectivement, des différences considérables d'activité qui sont déclenchées à volonté lorsque les méditants entrent dans cette méditation sur la compassion.
Ils ont fait évoluer leur cerveau.
Si vous voulez, on a des gymnases pour se muscler, mais des méditants qui, pendant une heure, deux heures, trois heures parfois, huit heures par jour ou dix heures par jour pendant des mois, méditent, c'est-à-dire cultivent l'amour altruiste, eh bien, très très vite. Déjà au bout d'un mois, vous voyez une neurogénèse importante, vous voyez des fonctionnalités dans le cerveau qui s'activent, davantage de connexions neuronales, parfois même une augmentation structurelle de la masse de certaines aires du cerveau. Donc, en fait, une plus grande activité déclenchée à volonté.
Déclenchée
à volonté.
Et c'est
pareil pour l'attention, c'est pareil pour l'équilibre émotionnel, autant de méditations différentes qui toutes ont une signature différente dans le cerveau. C'est-à-dire qu'elles activent des réseaux neuronaux différents qui sont spécifiques à chaque type de méditation.
Chaque type de méditation a un effet particulier sur le cerveau. Vous voulez commenter ce que vient de dire Mathieu Ricard?
Oui, donc c'est formidable parce que Mathieu Ricard est vraiment fait de l'incarnation de ce mélange, enfin pas de mélange, de cette ce dialogue entre la science et puis la méditation, des traditions millénaires de la contemplation.
Il donc est bouddhiste, il a aussi été scientifique chercheur au départ. Hein.
Exactement, il a fait sa thèse donc à l'Institut Pasteur. Donc il incarne véritablement en fait ce dialogue entre ces deux disciplines. Donc c'est exactement en fait ce que je peux dire aussi. Ce qui est très important, c'est de voir aussi la méditation comme quelque chose qui est un entraînement, en particulier de l'attention. Donc ça, c'est très important de voir...
Un entraînement, vous dites.
Un entraînement, en particulier d'être attentif. Donc c'est la pleine conscience, en particulier au moment présent. Donc ça nous entraîne finalement à quelque chose de très naturel, qui est d'être plus présent à ce que nous vivons ici et maintenant. Donc mais un entraînement est nécessaire. Ce qui est très étonnant, c'est que pourquoi un entraînement est nécessaire, c'est que la plupart du temps, en fait, l'esprit humain en fait, est extrêmement distrait. On a tendance à vagabonder et finalement on a moins tendance à être présent ici et maintenant.
Voilà donc, pourquoi il faut un peu l'éduquer, notamment dans des cas de dépression ou de fragilité. Il y a des psychiatres, Christophe André notamment à Paris, à l'hôpital Sainte-Anne, qui a introduit cette méditation de pleine conscience absolument laïque. Hein, là pour le coup, c'est pas bouddhiste, c'est laïque.
Exactement. Donc un des grands pionniers dans ce domaine, c'est Jon Kabat-Zinn
aux États-Unis,
qui a fait sa thèse au MIT. Donc c'est un biologiste et rien ne prédestinait cette personne en fait à s'intéresser à la méditation, mais en fait, il a rencontré un moine bouddhiste et Jon Kabat-Zinn a eu comme objectif en fait de laïciser, d'intégrer d'une certaine manière toutes ces pratiques orientales finalement à notre monde moderne et en particulier aux hôpitaux. Donc, il a développé à partir des années 70 en fait un programme de gestion du stress lié à la méditation. C'est un programme qui est très très américain, très standardisé. Donc, ça se passe sur 8 semaines. On se rend c'est en groupe à raison de 2h30 par semaine.
En groupe aussi, parce que souvent on a des fausses idées sur la méditation, mais vous le dites bien, c'est aussi le fait d'être, enfin, il y a aussi le lien à l'autre, le fait d'être à plusieurs, dans les pouvoirs de notre esprit, de notre mental, sur notre corps, quand on est à plusieurs, ça marche mieux.
Oui, exactement. Donc il y a le fait d'être en groupe est quelque chose de très important. Il y a des sortes de résonances émotionnelles qui se met en place, et surtout si vous avez l'occasion de rencontrer Mathieu Ricard, vous avez des personnes extraordinaires, ça fait du bien énormément d'être en présence de ces personnes. Donc ces phénomènes de résonance émotionnelles sont très importants également pour la méditation. En tout cas, Jon Kabat-Zinn a mis en place ce programme, et c'est un programme qui est très standardisé, et en fait, c'est très facile pour les scientifiques de voir l'efficacité de ce programme. Donc, vous pouvez faire des groupes de contrôle, vous pouvez regarder l'effet
sur... voir si ça marche, qu'est-ce que ça a fait effectivement dans le cerveau.
De manière très statistique, vous faites deux groupes, et vous regardez qu'est-ce qui se passe dans un groupe et qu'est-ce qui se passe dans l'autre. Et en fait, les bénéfices en fait de ce programme qu'a mis en place Jon Kabat-Zinn sont vraiment patents, qui sont vraiment évidents. Des bénéfices au niveau du corps, donc il y a une réduction du niveau de cortisol, l'hormone du stress. Vous avez une réduction en fait de la tension artérielle chez les patients, une amélioration aussi du système immunitaire, des défenses en fait contre les infections et contre l'inflammation. Donc ça, c'est au niveau un peu physiologique. On a déjà des traces clair en fait de l'avantage un peu de ces pratiques, mais également aussi au niveau psychologique. Donc tout le monde qui a fait un peu la méditation sait que on arrive en fait à retrouver d'une certaine manière la saveur du moment présent lorsque vous méditez un peu, et vous pouvez d'une certaine manière aussi lutter un peu contre ces récurrences d'état de mal-être, ces ruminations des idées, ces idées noires par exemple que certaines personnes ont. Donc ça permet en fait d'avoir une humeur qui est plus égale à ce qu'on appelle l'équanimité des émotions. Ça permet de réguler en tout cas les émotions de manière très forte, et donc tout à chacun peut utiliser cette méthode pour vivre mieux. Donc bien sûr, c'est aussi très intéressant pour tout ce qui est médecine, et la grande application en fait de la technique de méditation dans le domaine de la médecine, c'est surtout pour les patients qui sont déprimés. Donc c'est des patients qui posent un grand problème à la médecine conventionnelle, c'est que après un grand épisode en fait dépressif, ils ont tendance à rechuter en fait dans un état de dépression. Et une personne qui s'appelle Zindel Segal, donc qui travaille au Canada, a montré en fait que après un grand épisode dépressif, lorsque on fait la méditation pleine conscience, donc le programme de Jon Kabat-Zinn, eh bien en fait on diminue de 50% le taux de rechute de ces patients. Donc c'est comparable finalement à l'effet de médicaments, et donc c'est pour la médecine aussi, c'est une solution remarquable, et je pense une piste de recherche, bien sûr,
piste de recherche, ces pouvoirs de l'esprit sont multiples et fascinants autour de la question comment transformer son cerveau. On se rend compte que ce n'est même pas si compliqué que ça. On écoute Sinsemila, simple d'esprit, sur RFI.
Heureux les simples d'esprit, 2000 ans que c'est écrit, aujourd'hui j'ai compris. Heureux les simples d'esprit, oh oui, aujourd'hui j'ai compris.
Heureux les simples d'esprit, joli clin d'œil autour de la question comment transformer notre cerveau, avec notre invité, le chercheur en neurosciences Michel Le Van Kuyen, qui nous fait partager les multiples pouvoirs de l'esprit dans son dernier ouvrage, ou comment les neurosciences démontrent de très anciennes intuitions sur les liens entre le corps et l'esprit. Je vous propose un dernier éclairage, c'est celui de Jacques Arnoux, philosophe et théologien, chargé des questions éthiques au CNES, qui était récemment notre invité.
Moi, ce qui me fascine quand j'ai l'occasion de rencontrer ce type de travaux, c'est d'abord la combinaison entre tout ce qu'on apprend jour après jour grâce aux nouvelles technologies d'introspection dans notre cerveau, et tout ce que ça nous permet aussi d'imaginer comme pouvant être fait dans la suite. Parce que en savoir plus, évidemment, on nous laisse déjà dire, mais est-ce que nous ne pourrions pas aller plus loin? Et là, évidemment, nous rencontrons déjà des traditions, souvent spirituelles ou mystiques, qui ont depuis longtemps travaillé ça. Alors ça crée évidemment des rencontres surprenantes, peut-être parfois pas évidentes à vivre pour les uns ou pour les autres. Et évidemment, ça interroge un jour ou l'autre le théologien, parce que on parle même quelquefois de neurothéologie dans certaines cultures, ce qui pour moi ne résout pas la question. Parce que certains ont tendance à dire, bah vous voyez, le cerveau a de telles capacités qu'il est capable d'inventer, y compris d'inventer Dieu. En fait, Dieu est une invention de notre cerveau qui, grâce à ses capacités d'outrepasser les limites immédiates de l'espace et du temps, eh bien, peut créer un être et dans lequel nous nous fondons. Donc certains disent, non, Dieu n'existe pas, et d'autres disent, au contraire, Dieu existe puisque on a des preuves physiques dans nos encéphalogrammes et autres introspections de l'existence de quelque chose qui n'existe pas dans la réalité immédiate. Ma conclusion est beaucoup plus modeste que cela. Je trouve que ce que nous apprennent toutes ces sciences, c'est qu'il y a une capacité à... La vieille théologie disait « l'homme est capax dei, est capable de Dieu ». À cette capacité d'accueillir, d'expérimenter, ou même simplement de se poser la question de Dieu, et bien c'est ce que ces scientifiques nous disent à leur manière. Après d'autres, après des mystiques, après les psychologues, mais qui vient conforter ce pouvoir ou cette capacité fantastique de l'homme à outrepasser ses limites immédiates, sensitives et relationnelles, pour se mettre en relation avec un autre monde. Ce monde est-il celui de Dieu ou est-il encore celui de l'humain? À la limite, c'est à chacun de le choisir. Mais ça, c'est quand même fantastique.
Capacité fantastique de notre cerveau à se mettre en relation avec un autre monde, c'est à la fois mystique et neuroscientifique, j'ai envie de dire, vous voulez réagir à cet éclairage théologien, Jacques Arnoux?
Donc, moi je suis un scientifique, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion d'esprit est plutôt proche de la notion de mind en anglais.
De mental.
De
ce qui se passe à l'intérieur de notre tête.
Oui, c'est plus difficile pour moi d'aborder tout ce qui est évidemment le spirit, tout l'aspect, disons, spirituel. Néanmoins, effectivement, ça ouvre une porte vers ce domaine, mais néanmoins, je pense que c'est important de garder une certaine limite.
La science et la spiritualité.
Exactement. Donc la spiritualité est un domaine probablement qui est encore plus loin, éloigné de la science. Je pense qu'il y a un certain nombre de pas et d'étapes encore à franchir pour aborder ce domaine.
Mais en même temps, ce que vous dites, Michel Van Kuen, c'est que les scientifiques ont le droit, enfin comment dire, les neuroscientifiques, s'ils veulent travailler sur des questions, le cerveau, l'esprit, la conscience, ils doivent aussi empoigner ces questions de subjectivité et donc flirter un peu ou aller voir ce qu'on en dit les mystiques ou les...
Pas tout à fait. Donc, pour moi, la subjectivité, c'est quand même une sorte de capacité naturelle de notre esprit. C'est quelque chose qui n'a pas besoin de spiritualité pour exister d'une certaine manière. C'est simplement la pensée, comme elle s'exprime, votre expérience vécue, votre subjectivité. Donc, ça nécessite pas nécessairement de partir vers un horizon inconnu, d'après moi.
Non, mais d'étudier, par exemple, le cerveau de méditants bouddhistes, notamment,
oui,
qui ont beaucoup pratiqué la méditation.
Je pense qu'on peut faire, par exemple, comme finalement, toutes les formes laïques de méditation, on peut faire une méditation sans spiritualité d'une certaine manière. Bien sûr, c'est une réduction, quelque chose qui rend le pouvoir de la méditation peut-être beaucoup plus petite, mais néanmoins on peut commencer par là, c'est une porte ouverte. Donc je me prononce pas vers ce qui est au-delà de la porte, mais c'est une porte ouverte bien sûr pour tout ce qui est développement personnel et aussi spiritualité, mais néanmoins pour moi ces pouvoirs de l'esprit, c'est pas des pouvoirs extraordinaires d'une certaine manière, c'est des pouvoirs qui sont finalement des possibilités naturelles de notre esprit.
Et qu'on peut tous développer.
Qu'on peut tous développer, des choses très, très, très simples, un entraînement comme un entraînement physique de vos muscles, vous pouvez entraîner votre attention, vous pouvez entraîner d'une certaine manière vos capacités à réduire la douleur dans certains cas. Donc ça ne demande pas d'une certaine manière une spiritualité particulière.
Au fond, vous nous rassurez presque là, et en plus, à propos des capacités fantastiques qu'on a tout un chacun, vous les montrez aussi pour des patients qui sont atteints de liaisons particulières ou qui ont fait des AVC ou qui ont besoin de récupérer, vous montrez aussi que le cerveau et que chacun d'entre nous a aussi les moyens de récupérer.
Exactement, donc c'est le pouvoir de la neuroplasticité, donc la possibilité d'une certaine manière de se recâbler, de se transformer, donc c'est particulièrement le cas en tout cas dans le cas d'une lésion du cerveau. Un des grands pionniers de ce domaine, c'est Paul Baccarita, donc qui en fait donc dans les années 50 a compris le pouvoir de la neuroplasticité par l'expérience qu'il a fait avec son père était un vieux monsieur qui a fait un AVC et qui donc a perdu une grande partie de contrôle de son corps et il pouvait plus parler, et avec son frère Georges, en fait, ils sont mis en fait à entraîner leur père de manière quotidienne et très intensive. Et au bout d'un an d'efforts très intensifs, ce vieux monsieur a récupéré la plupart de ses fonctions. Et Paul Baccarita a bien compris en fait que le cerveau de son père en fait a réussi à se recâbler, à pallier à de multiples déficits et à peut retrouver des fonctions pratiquement naturelles. Donc ça, c'est le grand pouvoir en fait, la neuroplasticité, c'est que le cerveau peut, d'une certaine manière, après une lésion, se reformer, se transformer de lui-même également. Il y a beaucoup d'exemples que je donne dans mon livre.
Il faut persévérer, enfin, je veux dire, il faut persévérer, c'est vraiment un entraînement, hein, comme une gymnastique du cerveau. Ouais. Il faut persévérer, vous donner des pistes aussi en disant que c'est bien de faire ça en lien avec l'autre, et que ce qui fait du bien au cerveau aussi, ou à l'esprit, c'est de rire. Le rire, ça fait du bien.
Bon, ça c'est une autre pouvoir de l'esprit. D'une certaine manière, c'est le lien qu'on a avec les autres, quelque chose qui est fondamental, qui est ancré en nous, qui est vraiment une câblage. Si vous souriez comme maintenant, votre sourire devient le mien automatiquement. Donc le sourire est comme le bâillement, quelque chose qui est une contagion formidable.
Il faut s'en servir.
La même manière aussi pour la douleur. Donc si vous voyez une personne qui souffre, les zones du cerveau qui s'activent lorsque vous voyez la personne souffrir sont pratiquement les mêmes que celles que vous avez lorsque vous souffrez vous-même. Donc il y a un lien extrêmement fort avec l'autre, et ce lien est quelque chose qui est très fondamental chez nous, les êtres humains, et en particulier, donc ça produit toutes sortes d'effets bénéfiques. Par exemple, le contact des yeux du bébé avec la mère facilite le développement du système nerveux de l'enfant.
Bon, faut se regarder tous, les yeux dans les yeux, puis s'écouter. Merci infiniment, hein, Michel Van Kuen, d'être venu partager avec nous toutes ces pistes pour aller mieux, aller bien, pour se transformer, hein, tout à chacun. Je rappelle le titre de votre livre, Les pouvoirs de l'esprit, aux éditions Flammarion. C'est sous-titré « Transformer son esprit, c'est possible », à lire et à méditer, bien sûr, absolument. Merci à vous.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Demain, comme tous les vendredis, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez à mes auditeurs à ce micro. Quant à nous, Charles Pélabon, Caroline Fillette et Caroline Lachowski, nous vous donnons rendez-vous lundi sur les traces des manuscrits de Tombouctou et du Sahara et des philosophies arabes, de grands écrits, de grandes sagesses à réinscrire elles aussi de toute urgence dans notre patrimoine commun de l'humanité pour se les réapproprier et nous transformer, pourquoi pas aussi, ensemble. Merci de votre curiosité, merci de votre interactivité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert. Très bonne fin de semaine à tous. Dans quelques instants, dans 30 secondes, les informations sur la Radio Mondiale.